Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée aux migrations. Alors qu'en France, le gouvernement réunissait aujourd'hui son comité interministériel de contrôle de l'immigration et qu'à Bruxelles, la Commission s'apprête à réviser un pacte asile et migration qui n'est même pas encore totalement entré en vigueur dans les États membres. Pour parler des lois, mais aussi et surtout des hommes et des femmes qui migrent à travers le monde, Catherine Wittold-Venden est notre invitée. Bonjour.
Bonjour.
Directrice de recherche, enseignante à Sciences Po, vous avez écrit de très nombreux ouvrages sur le sujet. Le dernier vient de paraître aux éditions Autrement. Il s'intitule « Immigration, indifférence, indignation, déshumanisation ». La réunion de Paris survient par hasard de calendrier après le tragique attentat de Mulhouse qui a fait un mort et plusieurs blessés. Le suspect est un Algérien en situation irrégulière. Ces crimes, qui doivent être traduits en justice et qui sont réguliers en Europe, exacerbent bien sûr les tensions et le rejet de l'étranger en général. Je voulais avoir votre réaction.
Malheureusement, ce sont des drames qui surviennent assez régulièrement, puisqu'en fait, soit il y a des attentats de type terroriste, soit il y a un certain nombre de gens qui sont souvent un peu malades mentaux aussi, qui commettent ce genre d'extrême violence, mais ça n'est pas du tout représentatif de la population immigrée et issue de l'immigration, qui, d'après toutes les enquêtes, avec de nombreux critères, s'intègre en réalité. Mais c'est vrai que c'est une aubaine, si j'ose dire, pour les partis populistes qui tirent parti de ces événements qui surviennent pas seulement en France, on en a vu aussi récemment en Allemagne, pour dénoncer la présence étrangère, la violence, l'extrémisme, etc.
Paris veut faire pression sur l'Algérie qui aurait par 10 fois refusé de délivrer un laissez-passer pour que le suspect soit renvoyé puisqu'il était sous le coup, comme on dit, d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire. Et plus largement, faire pression sur tous les pays de départ. Donc le grand mot d'ordre, c'est l'expulsion des sans-papiers. Est-ce que c'est une solution?
En fait, on prononce beaucoup trop d'OQTF, comme on dit, d'obligation de quitter le territoire français dans notre pays. Et c'est pourquoi on a de très grandes difficultés à les voir exécutées. Parce qu'il faut négocier avec les pays de départ, il faut le rappeler, qui sont souverains pour dire oui ou non, je suis prêt à accepter le retour de telle ou telle personne. Donc, il ne suffit pas de dire cette personne est sous OQTF pour que automatiquement elle soit renvoyée dans son pays. On en est très loin, le taux de reconduction c'est autour de 8%, alors que l'Allemagne a un taux très supérieur parce qu'elle prononce beaucoup moins d'OQTF. Souvent, c'est un petit peu la poubelle des préfectures, les gens qui sont des boutés du droit d'asile, toute une série de gens qui d'ailleurs travaillent et qui essayent de prolonger leur séjour sont sous le coup d'OQTF, faut pas l'oublier.
Il y a un pays en Espagne qui se démarque dans cette affaire, c'est l'Espagne qui choisit l'intégration.
Tout
Madrid va procéder à de nouvelles régularisations, oui. Elle l'a déjà fait, 900 000 personnes vont être concernées et ça profite à l'économie. Alors pourquoi c'est pas possible ailleurs ?
Alors, ce serait possible partout en réalité, mais beaucoup de dirigeants européens qui sont dans un contexte de montée des populismes ont peur de ces discours, qui est le cas en France aussi, et donc ils n'osent pas prononcer autant de régularisation. Ce serait la solution à beaucoup, beaucoup de situations, de gens qui se retrouvent en situation irrégulière et qui souvent d'ailleurs sont entrés légalement. Ce qu'on oublie, tous n'arrivent pas par Lampedusa et ensuite traverseraient les Alpes. Il y en a beaucoup qui sont entrés comme touristes, des étudiants qui ont voulu prolonger leur séjour en travaillant. Et ensuite, il y a des femmes qui ont été abandonnées par leur mari, qui sont entrées dans le cadre du regroupement familial, des mineurs isolés qui sont devenus majeurs, des déboutés du droit d'asile, donc qui sont entrés comme demandeurs d'asile. Tous ces gens-là deviennent en situation irrégulière. Et une des solutions, ce serait de régulariser le plus grand nombre de ceux qui concourent à l'économie, comme c'est le cas en Espagne, et notamment dans les fameux secteurs en tension, alors qu'on a souvent une définition très restrictive en France de la définition de ces secteurs.
À la lisière des eaux territoriales grecques, plus d'une vingtaine de migrants sont secourus par les gardes-côtes turcs.
On était presque arrivés en Grèce et les gardes-côtes sont arrivés et ils ont jeté le moteur à la mer. Ils nous ont battus, même les jeunes filles. Et après, ils nous ont repoussés vers la Turquie.
Le refoulement de migrants a longtemps été nié. Il est aujourd'hui attesté par de nombreuses vidéos et des images télé, comme celle qu'on vient d'entendre, issue d'un reportage de nos collègues de France 24. Et ils sont jugés. Plus de 30 affaires sont actuellement devant la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour qui, en janvier, a condamné pour la première fois un État, la Grèce. Le verdict parle de pratiques systématiques de refoulement aux frontières. Notre correspondant Joël Bronner s'est interrogé sur la portée que la décision peut avoir. Et Catherine Vittel-Devanen, je vous propose de l'écouter.
En condamnant la Grèce pour un refoulement et en qualifiant les pushbacks de migrants de pratiques systématiques, la Cour de Strasbourg marque un tournant historique. Il s'agit d'une remise en cause frontale de la part de la justice européenne du discours officiel d'Athènes, notamment celui tenu depuis 2019 par le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. Illustration lors de différentes interviews face à la presse étrangère qui lui demande si Athènes a recours à des refoulements.
Non, ce n'est pas le cas, pas du tout. Et je veux être très clair sur ce point. De nombreux rapports sur cette question des refoulements proviennent de Turquie. Je serais donc tenté de conseiller aux journalistes qui publient ce genre d'histoire de se montrer plus prudents dans la vérification de leurs sources.
Cette accusation précise envers Ankara remonte à 2020, au pic des tensions du gouvernement Mitsotakis avec Ankara, accusé à l'époque d'instrumentaliser la question migratoire en massant migrants et demandeurs d'asile à la frontière. Certes, les relations entre les deux pays se sont depuis apaisées, mais Athènes a continué à nier la pratique du refoulement. À l'avenir, ce ne sera plus possible, comme l'explique Alexandros Constantinou, un des avocats de l'ONG Conseil grec pour les réfugiés, à l'origine de la condamnation d'Athènes, quelques jours après le verdict de la Cour européenne.
Jusqu'à présent, la discussion sur cette question portait principalement sur le fait de savoir si ce refoulement existait ou pas. La décision du tribunal, je pense, résout cette question. La manière dont nous allons désormais aborder cette pratique spécifique repose donc sur une base différente.
Clotilde Prounzou, du Conseil grec pour les réfugiés, est l'avocate qui a suivi l'affaire depuis le premier jour. Elle espère que le verdict empêchera les futurs refoulements des migrants et des demandeurs d'asile.
Ce verdict très important, c'est une reconnaissance pour toutes les victimes de refoulement et pour les nombreux réfugiés qui arrivent en Grèce, en particulier dans la région frontalière avec la Turquie, et qui se retrouvent de manière systématique privés du droit de déposer une demande d'asile. Cette situation, nous ne cessons de la dénoncer et nous appelons à nouveau les autorités grecques à prévenir ce type d'action à l'avenir.
Au total, depuis 2022, l'ONG a saisi la Cour européenne à 100 reprises à propos du sort de près de 800 personnes, Syriens en tête. Objectif de la requête, obtenir une mesure provisoire de la Cour permettant l'octroi d'une aide humanitaire et l'accès à la procédure d'asile. Malgré les mesures d'urgence accordées par la Cour dans tous ces dossiers, dans plus d'un cas sur deux, les personnes ont finalement été refoulées de la Grèce vers la Turquie. Pour l'avocate, il faut désormais attendre de connaître la réponse européenne dans sa globalité.
Il s'agit maintenant de suivre au fil du temps si ce verdict est suivi d'effet au niveau de l'État membre condamné. Cela signifie concrètement que le Conseil de l'Europe formulera dans un avenir proche des propositions pour des changements spécifiques à mettre en œuvre au niveau de la Grèce afin d'éviter de futures violations. À l'heure actuelle, nous en sommes à un stade très précoce. Nous attendons donc de voir quelles mesures seront prises.
En attendant de savoir si la condamnation européenne restera essentiellement symbolique ou bien si les institutions strasbourgeoises mettront en place un mécanisme de surveillance efficace, les avocats espèrent un déclic au niveau de la justice grecque. Une justice en manque d'indépendance qui n'a jamais reconnu la réalité des refoulements et qui vient elle aussi de subir un désaveu cinglant de la part des juges strasbourgeois. Quoi qu'il en soit, pour l'heure, sur le terrain, les avocats le confirment, la pratique des refoulements n'a pas cessé.
Catherine Vittel-Devanen, on l'entend, l'avis de ces instances n'est que consultatif.
Malheureusement, oui. Ce qu'il faut voir, c'est que la Grèce est un pays pauvre en Europe et elle a le sentiment, comme l'Italie, d'être un petit peu abandonnée par les autres États européens, puisqu'ils sont frontalement face aux nouvelles arrivées du fait de leur position géographique. Et ça, je crois que c'est un aspect très important, qu'ils ont le sentiment d'une inégalité. Le deuxième point, c'est que les pushbacks, malheureusement, dans cette région, ils sont fréquents parce que la côte grecque, et notamment les îles grecques du Dodécanèse, sont très proches de la côte turque. D'ailleurs, avant, ces îles, dans le passé, ont été turques, donc la tentation de repousser vers la côte turque. Ils n'ont pas des milliers de kilomètres à faire subir aux personnes. Et de toute façon, il y a encore des arrivées. Pour une raison simple aussi, c'est que la Turquie a beaucoup accueilli, faut pas oublier, près de 4 millions de personnes en 2016 en vertu d'un accord avec les 27 pays de l'Union européenne. Mais en même temps, elle n'offre qu'une protection temporaire, un peu ce qu'on a offert en Europe pour les Ukrainiens. Donc ça explique l'attraction de ces gens qui se trouvent en Turquie pour l'Europe en réalité, et donc toute une série de tentatives d'accéder sur les côtes grecques avec une pratique des pushbacks. Faut pas oublier qu'il n'y a pas que la Grèce qui fait des pushbacks, il y a aussi l'Europe, Frontex, dont le directeur qui est parti a été désavoué par la Commission européenne pour avoir pratiqué des pushbacks entre la Grèce et la côte turque, ce qu'on appelle la Méditerranée orientale. Donc c'est malheureusement fréquent qu'il y ait des pushbacks dans cette région.
Une question qui est assez liée à ce que vous venez d'évoquer, notamment sur ces pays du sud de l'Europe qui sont face aux arrivées, premier pays d'arrivée, c'est celle des sauvetages en mer et de la mortalité en mer. Plus de 63 000 personnes ont péri ou disparu sur les routes migratoires à travers le monde en 10 ans. Selon l'ONU, 40 000 environ en Méditerranée et l'année dernière, c'est plus de 2 000. L'indifférence... Absolument. C'est une des têtes de chapitre de votre livre, ce mot indifférence. Et qu'est-ce qui se passe? On s'habitue, on tourne les yeux?
Ben, malheureusement, moi, parfois, je me dis chaque jour, puisqu'on a 365 jours dans l'année, on a donc ces morts en Méditerranée. Je parle même pas des autres endroits. Il faut pas oublier Calais. Il y a eu 86 morts entre Calais et Douvres pendant cette année 2024. C'est devenu banal. Hein. Maintenant, les gens n'écoutent même plus les annonces des journalistes sur les morts en Méditerranée.
Et sur les réseaux sociaux, on lit même parfois des commentaires haineux qui vont jusqu'à souhaiter la mort de ces personnes. Vous parlez aussi à une des autres têtes de chapitre de votre livre, c'est la déshumanisation.
Ah oui.
C'est là qu'on atteint ce stade.
Tout à fait. Alors, c'est pas moi qui ai inventé le terme, hein. Certains en ont parlé. Et notamment, j'ai cité le directeur général du Haut Commissariat aux réfugiés qui, dans une allocution qu'il avait faite à Sciences Po au printemps dernier, parlait de déshumanisation, d'inhumanité dans le traitement aujourd'hui des réfugiés et des demandeurs d'asile. Faut pas oublier que derrière la traversée de la Méditerranée, il y a notamment, mais pas seulement, la traversée de la Libye. On se croirait au Moyen-Âge. Les subsahariens sont réduits en esclavage. Ils sont enfermés pour travailler dans les propriétés des riches libyens. Viols. Ils sont battus. Ils sont enfermés. Donc la situation est absolument inacceptable. Et malgré tout, l'Europe a décidé de confier assez curieusement le départ, la gestion des départs de la côte sud, essentiellement aux gardes-côtes libyens. C'est vrai que la Libye a une grande surface sur la Méditerranée, les passeurs sont en uniforme dans ce pays, dans un certain nombre de cas. Soit ils sont complètement coupés de la réalité, soit ils sont mal informés de ce qui se passe pour la traversée de la Libye. Et ceux qui aboutissent à la mer, c'est souvent aussi par désespoir de la façon dont ils sont traités en Libye. Et donc, peu à peu, ils se disent finalement, c'est dangereux, je peux mourir en Méditerranée, mais c'est toujours mieux que de me faire réduire en esclavage sur ce territoire libyen.
La déshumanisation ou l'inhumanité qui est aussi une résultante peut-être du vocabulaire qu'on utilise. Il y a un mot utilisé par le Premier ministre François Bayrou récemment qui a provoqué un tollé de l'opposition à l'Assemblée nationale. C'est celui de submersion qui met de l'huile sur le feu mais aussi qui déforme la réalité. Les chiffres ne parlent pas...
Absolument pas. Alors à Mayotte, il y a beaucoup d'arrivées mais c'est encore un sujet très spécifique qui est lié à l'histoire de Mayotte vis-à-vis des autres communes. mort. Mais en France, on n'est pas du tout dans un contexte de submersion en termes de chiffres. La moyenne européenne, c'est 10% d'immigrés dans les pays européens. En France, on a 10,7% d'immigrés, alors que l'Allemagne en a entre 13 et 14%. Donc, on est très, très en dessous de ce qui se trouve de l'autre côté du Rhin. On est dans la moyenne européenne. De même, pour les accueils, quand l'Allemagne a accueilli 1 million de Syriens, en France, on en a accueilli 11 000. On aurait pu avoir appliquer les quotas de Bruxelles qui fixaient pour la France à peu près à 35 000 personnes. Ils sont même pas venus, si j'ose dire. Donc, on n'a pas été submergé par les Syriens. De même, pour les Ukrainiens, on a accueilli 4% des Ukrainiens qui sont arrivés chez nous, enfin, à l'intérieur de l'Europe. L'essentiel, ça a été la Pologne et l'Allemagne. Et un peu la Moldavie, qui est le pays qui, compte tenu de la petitesse de son territoire et de sa population, est le pays qui, en proportion, en a accueilli le plus. Donc, on n'est pas du tout dans un contexte de submersion. C'est une idée complètement fabriquée et qui, aujourd'hui, alimente toute une série de partis sympathisants de diverses formes du populisme. Et c'est assez étonnant que ceux qui sont aux manettes du pouvoir soient tentés d'utiliser les mêmes mots. Il ne faut pas oublier que le terme de subversion, il a d'abord été employé par Jean-Marie Le Pen après les élections municipales de Dreux en 83.
À la fin de votre livre, vous vous posez une question qui vous préoccupe en tant que chercheuse. C'est savoir pourquoi, et des recherches, vous en avez fait longuement, pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à démontrer l'impact des recherches sur l'immigration auprès des responsables et des publics informés? Alors, en effet, pourquoi? Et puis, la recherche n'est pas entendue ou assez diffusée. Et que disent ces études, notamment sur le plan, justement, économique?
Alors, il y a beaucoup de travaux, puisque pour faire ce petit livre, j'ai aussi regardé un peu toutes les analyses économiques qui avaient été faites, notamment par l'École d'économie de Paris, par exemple, ou par l'OCDE. Un certain nombre de chercheurs connus et reconnus qui se sont exprimés là-dessus. Et tous ces gens disent l'immigration est bonne pour l'économie. On a intérêt à ouvrir davantage à l'immigration de travail parce que ça profite économiquement. Il ne faut pas oublier que le migrant, il arrive souvent à 20 ans. Donc, on n'a pas eu à payer la jeunesse. On n'a pas à payer le grand âge parce que beaucoup d'entre eux repartent dans leur pays une fois qu'ils sont à la retraite. Donc, économiquement, en plus, s'ils sont en situation régulière, ça va devenir des consommateurs, des gens qui vont payer des impôts et donc qui vont faire partie pleinement de la société. Alors que s'ils sont en situation irrégulière, ils rasent les murs et ils peuvent pas, être complètement des acteurs économiques puisqu'ils sont très mal payés dans leurs emplois. Donc économiquement, on a tout à fait intérêt surtout en période de déclin démographique dans laquelle la France est également entrée, favoriser l'immigration économique. Mais ce discours est très peu entendu. Et même ce qui me frappe, c'est que le patronat, par exemple, qui avant était un acteur très important de la décision concernant les migrations entre 1945 et 1974, on n'entend plus du tout aujourd'hui. Deuxième point, c'est que démographiquement, on en a besoin. Il y a un risque qui pèse sur l'Europe, c'est d'avoir pour la moitié de ce siècle plus d'inactifs à cause de la retraite que d'actifs. Donc, de toute façon, pour des raisons simplement démographiques et économiques, on a besoin d'immigration en Europe compte tenu des perspectives de l'ensemble du continent européen.
Merci Catherine Vitold de Venden d'être venue dans Accent d'Europe. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Immigration, indifférence, indignation, déshumanisation, c'est chez Autrement. Et je renvoie aussi les auditeurs vers votre atlas des migrations. C'est la 6e édition, un panorama mondial très complet du sujet chez le même éditeur. Cette émission était réalisée par Théo Raison et vous pouvez la retrouver quand vous voulez sur l'appli Pure Radio de RFI. À demain.